Radio SV, Sound and Vibe.
Métarythmique, une émission spéciale sur Radio SV.
Chers amis, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Radio SV sur l'émission Métarythmique. Dans une émission assez surprenante, je vais tout de suite vous l'expliquer. D'abord, j'aime bien les jeux de mots, je pense que vous l'aurez compris. Et sinon, c'est un acronyme pour dire métamorphose et rythmique. Et oui, métamorphose de la musique, je vais vous parler des plus gros changements du monde de la musique. Que ce soit au nord de son apparition, de l'apparition du numérique, d'arrivée de l'internet, ou encore du point de vue de la production. C'est un sacré sujet qui demande évidemment beaucoup d'expertise. Du coup, je ne suis pas tout seul. Je ne serai pas le seul que vous allez entendre pendant 1h30. Vous allez voir, le plateau est bien rempli. Alors, nous sommes assez remplis et je vais du coup commencer par me présenter. Bonjour, je m'appelle Christophe Hulens, je suis votre présentateur. Je vais vous accompagner durant tout le long de cette émission. Je m'occuperai aussi d'introduire un peu ce sujet en vous faisant l'histoire un peu des supports musicaux qui va servir d'une bonne base à toutes les autres explications qui pourront venir par la suite. À ma droite se trouve mon cher co-animateur, mon cher collègue, Martin.
Salut à tous.
Salut Martin. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau pour ce soir ?
Ce soir, j'ai préparé pour vous un petit quiz sur la musique, les chiffres, les classements, les numéros 1.
On va s'amuser bien. Donc un petit jeu, un petit quiz. Mais bien avant même ce jeu, nous allons avoir des belles explications. Et pour ça, j'ai chroniqueur et chroniqueuse. Et je vais commencer par Servane. Servane, bonjour.
Bonjour.
Alors du coup, que vas-tu nous raconter ce soir ?
Alors moi, je vais parler de l'impact d'Internet sur, surtout le streaming, sur les artistes.
Ok, sur les artistes notamment. Donc ça sera une suite finalement à l'histoire des supports. Internet arrivera et Servane vous expliquera ça en tout détail. Par la suite après, donc le jeu interviendra. Et puis un chroniqueur qui n'est pas encore présent, mais qui viendra nous rejoindre, qui s'appelle Tristan Landreau, que vous connaissez aussi sous le nom de La Voix de la Raison, dans une émission appelée No Filter pour les connaisseurs de Radio SV, viendra vous expliquer l'arrivée des studios, l'arrivée des home studios et comment leur impact a changé beaucoup de choses dans le monde de la musique. Vous allez voir, ils sont au cœur de beaucoup, beaucoup de musique que vous écoutez aujourd'hui. Enfin, il faut aussi bien que je nomme la technique, et pour ça nous sommes accompagnés notamment de deux personnes, une pour l'image et une pour le son. Et je vais commencer par Pépé.
Bonjour.
Bonjour Pépé. Pépé, du coup, c'est grâce à lui que vous allez nous voir, c'est grâce à lui que vous allez profiter de nos bonnes bouilles. Et c'est lui du coup qui va gérer notre stream YouTube. Il pourra bien évidemment s'amuser à donner quelques petites remarques et intervenir durant l'émission. C'est bien pour ça qu'il est sur le plateau. Et enfin, évidemment, nous sommes sur Radio SV, nous sommes sur une radio. Il fallait bien quelqu'un qui soit à la régie. Et évidemment, c'est Sarah Clavry, que vous connaissez aussi dans l'émission No Filter. Mais cette fois-ci, je lui ai volé sa place. Car bien qu'avant, elle avait l'habitude de faire co-animatrice, cette fois-ci, elle est à la technique. Et vous allez voir, elle va vous faire une émission du feu de Dieu. Et enfin, évidemment, je devais garder le meilleur pour la fin. Il nous fallait bien quelqu'un qui connaisse l'expérience du milieu. J'ai donc invité un artiste, j'ai invité Lucas. Lucas, bonjour.
Bonjour à toi.
Lucas, du coup, qui est un artiste qui fait du rap et qui possède même son propre label.
C'est ça.
Et est-ce que tu nous as apporté quelque chose de particulier ?
Peut-être qu'au cours de l'émission, il est possible qu'on chantonne un petit peu. Au cours de l'émission, ouais.
On chantonne.
On chantonne.
Tous ensemble.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas, finalement. Et oui, car il va vous présenter deux titres de son nouvel album. Et restez bien jusqu'au bout. Ça vaut le coup, parce que vous allez voir, c'est de la musique de très bonne qualité et on va bien en profiter. À présent, du coup, sans plus attendre, il va falloir commencer cette émission. Et pour ça, il fallait bien une musique qui puisse introduire tout ça. Ainsi, je vous ai choisi une musique qui peut bien expliquer toute cette émission. Et cette musique, vous allez la reconnaître. Vous la reconnaissez, c'est The Buggles avec leur titre Video Kills the Radio Star. Profitez bien, il est 20h45 sur Radio SV.
You coming through? Oh, oh, oh.
Video Kill the Radio Star des Buggles. Vous êtes bien sur Radio SV dans l'émission Métarythmique. Cette musique n'a donc pas été choisie au hasard, et pour ça il faut la restituer dans son contexte. Et oui, parce que cette musique, elle a la particularité d'être la toute première musique diffusée sur la chaîne MTV, qui est une chaîne, télé américaine qui diffuse essentiellement de la musique ainsi que leurs clips. À savoir qu'à ce moment-là, le monde de la radio était terrorisé de perdre tous leurs auditeurs parce qu'ils pensaient qu'ils allaient tous regarder la télé. Bon, il se fait qu'au final, les radios ont bien survécu et il y a encore beaucoup d'adeptes à celle-ci. Mais c'est un sujet intéressant car des surprises et des peurs, il y en a eu beaucoup dans le monde de la musique. Mais pour ça, j'aimerais revenir au tout début. Et le tout début de la musique, c'est même le début de l'enregistrement musical. Et pour ça, il faut que je vous fasse écouter un son qui puisse vous faire comprendre tout ceci. Belle qualité, n'est-ce pas ?
Magnifique.
Magnifique. Alors, est-ce que vous avez reconnu l'enregistrement ? Est-ce que vous avez reconnu qu'est-ce qui a été chanté ?
Moi, ça me parle.
Ça te parle ? T'as une idée ?
C'est une comptine de quand on était petit, au clair de la lune, c'est
au clair de la lune, ouais. Alors, donc c'était bien quelqu'un qui a chanté. Et à savoir que la première fois que j'ai entendu cet enregistrement, j'ai cru que c'était un instrument. J'ai demandé, tiens, c'est quoi cet instrument ? Et en fait, non, c'était sa voix. Cet enregistrement date de 1860. Il a été fait par un Français, Léon Scott de Martinville, et qui n'a jamais su réécouter de toute sa vie. Et c'est que bien, bien des années après qu'on a réussi à le décoder, avec le numérique d'ailleurs. Mais bon, heureusement, en 1877 est arrivé le premier support réécoutable, le fameux phonographe d'Edison, qui, à votre info d'ailleurs, n'était pas sur des disques, mais bien sur des cylindres en cire. C'est très facile à transporter, évidemment, et ça devait s'abîmer très rapidement. Et donc, évidemment, les choses ont bien évolué par la suite. On a notamment un gramophone, 10 ans après, qui est arrivé et qui a introduit, du coup, le disque, comme on le connaît, qu'on appelle maintenant vinyle, sauf qu'à l'époque, c'était pas du vinyle, c'était de la laque. Est-ce que vous avez déjà vu de la laque ? Eh bien, la laque, c'est très cassant. Donc, on pouvait sortir son disque et on pouvait le péter.
Au prix du CD de l'époque, en plus.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'était bien pratique, c'était simple face et ça avait un enregistrement pas fou. C'est le fameux format 78 tours. En 1908, on a quand même réussi à mettre une double face. Et à l'époque, d'ailleurs, on s'enregistrait simplement en chantant dans un cornet qui était relié directement à une membrane qui gravait sur le disque. Donc on n'avait même pas de micro, et les guitares ne passaient pas, il fallait utiliser des banjos. Ainsi, les choses ont bien évolué, notamment avec l'arrivée du fameux 33 tours, qui a été inventé par Columbia, qui passe de 4 minutes d'enregistrement à 30 minutes d'enregistrement, double face, avec son concurrent, le fameux 45 tours, qui était une société concurrente, qui venait du coup d'une société RCA, c'était aussi une maison de disques. Ces deux disques au départ étaient en grande concurrence et ça a été standardisé pour qu'on puisse s'y retrouver. Et on peut noter encore l'arrivée de la stéréo en 1958. Et là où ça devient intéressant, c'est l'arrivée de la cassette audio. Les cassettes audio, c'est un sacré moment et c'est toute une époque parce que en fait, c'était le premier support où tout le monde pouvait s'enregistrer facilement. C'est-à-dire que la première fois, le grand public pouvait à moindre prix s'enregistrer. Et ça, c'est une grande nouveauté. Mais il y avait aussi une autre chose, c'est la première fois que les gens pouvaient aussi réenregistrer de la musique. Et là, frayeur. Des gens qui peuvent enregistrer de la musique, c'est des cassettes qui ne sont pas vendues. Et donc là, on va se mettre dans la place des compagnies de disques qui, tout d'un coup, se retrouvent avec beaucoup moins d'achats parce que tout le monde va recopier ses cassettes. Bon, en vrai, ça allait, mais ça instaurait les choses. Et ils ont du coup réussi à gagner. Et du coup, en 1985, notamment en France et un peu plus tôt en Allemagne, a été mis en place une taxe. Une taxe qui s'appelle la taxe pour copie privée, où on a rendu légal le fait de copier des supports. Parce qu'avant, on pouvait pas copier et par la suite on a su copier. Mais pour ça, à chaque fois qu'on achète un support d'enregistrement, on paye une taxe. Et sachez que c'est toujours d'actualité. Et donc, quand vous avez acheté votre smartphone, vous avez payé 14 € de taxe pour... compenser les maisons de disques et les artistes qui perdaient de l'argent à cause de ça. Et quand on achète un décodeur TV avec un disque dur, ça monte même à 30 €. Donc c'est assez élevé. Et donc ça, c'est toujours d'actualité, c'est remis à jour. On a entendu parler il n'y a pas longtemps parce qu'on a mis en place les téléphones reconditionnés qui, eux aussi, doivent payer des taxes. Et est arrivé en même année, d'ailleurs, en 1985, le CD, le fameux CD, qui existe toujours actuellement encore. Et lui a instauré le numérique. Et le numérique, ça fait quelque chose de fou. Ça fait le copier-coller. Le copier-coller, c'est copier sans perdre en qualité. Et à partir de là, eh bien, on a pu copier sans perte. Et ça veut dire qu'on peut copier un enregistrement à l'infini. Et alors là, qu'est-ce que ça a créé ? Ça a créé, avec l'arrivée d'Internet, Napster. Et Napster, c'est un service qui permettait d'échanger de la musique en ligne, gratuitement, sur tout le réseau internet. Autant vous dire qu'ils ont été bien rattrapés par la justice et qu'ils ont dû payer. Mais sachez que Napster existe toujours. C'est un service de streaming, un peu comme Spotify ou YouTube, et qui permet d'écouter pour un abonnement. Voilà.
Ouais, les objectifs ont bien changé par rapport
au début. Ouais. Ils ont commencé par échanger un peu sous le capot, et puis ils ont fini par faire un service de streaming. Et pour l'instant, ils sont toujours pas morts, donc ça a l'air de fonctionner. Autant dire qu'ils avaient déjà leur réputation.
Je sais pas qui a un abonnement Napster ici.
Non, c'est pas très 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 commun.
Je pense qu'en France...
Non. Ouais. Voilà. On aura essayé en tout cas. Voilà. Donc c'était l'histoire des enregistrements. Je vais m'arrêter là, parce que par la suite, Internet arrive grandement. Et là, c'est toute une histoire. Toute une belle histoire. Et pour ça, eh bien, il fallait une bonne musique de transition.
Balance ta dédicace à ta radio préférée.
Et vous la reconnaissez, Virtual Insanity de Jamiroquai. Et il est maintenant 20h54 sur Radio SV.
Yeah.
dédicace à ta radio préférée.
Je me demande souvent, mais comment on faisait avant? Avant tous ces petits détails qui font notre quotidien, toutes ces choses qui aujourd'hui nous paraissent si naturelles.
Ouais.
Mais comment on faisait avant? Avant l'informatique, les portables, le sida. Je me demande, mais comment on faisait avant, sans télécommande? Il paraît qu'on se déplaçait pour zapper, ça c'est étonnant. Maintenant, 250 chaînes et la parabole. Avant, 250 pages et même par album. La littérature et lire 15 jours, ça a été fun. Mais je troquerais pas tout cela contre ma PlayStation. Ma nostalgie a des limites et la technologie efface même un passé indélébile. Mais comment on faisait avant, à l'époque des vieux Adam, sans le béton et l'air nauséabond, sans les gaz d'échappement qui font monter le mercure, dur de supporter l'air pur. Mais comment on faisait avant, yeah. Mais comment on faisait sans, mais comment on faisait, comment on faisait, comment on faisait avant, mais comment on faisait avant, mais comment on faisait sans. Mais comment on faisait avant? Mais comment je faisais avant? Sans net et mon phone, pour liquider mon solde et qui fait l'insomnie. Des destins scellés, illico, presto, un clic, un texto, ciao. Mais comment on faisait avant? Sans la chirurgie, il paraît quand t'avais une sale gueule, c'était pour la vie. Mais comment on faisait, hein? Avant que la science progresse, des rumeurs disent qu'à l'époque les gens mourraient de vieillesse. Non, maintenant les virus ont tout infesté. Avant il paraît qu'on s'aimait sans peur des MST, qu'on kiffait sans DSP, qu'on riait sans shit. Seulement maintenant t'es sans prix. Mais comment on faisait avant? Mais comment on faisait sans? Mais comment on faisait? Comment on faisait? Comment on faisait avant? Mais comment on faisait avant? Mais comment on faisait sans? Mais comment on faisait avant? Maintenant les mecs regardent la beauté intérieure. C'est ça, un tas de faux culs qui kiffent sur les faux seins. Faut pas se voiler la face, le naturel c'est loin. Et si t'as pas style à la mode, t'es rien. Mais comment on faisait avant les clips pour avoir le style? Avant le style pour porter les sacs de 80 en l'an 2000. Avant l'an 2000 pour rire du futur d'antan. Combinaison argentée, véhicule volant. Hier, on se disait demain sera un jour meilleur. Demain, on se dira hier, on faisait une petite erreur. Comment on faisait avant? C'est vrai, et au fait, comment on fera après? Mais comment on faisait avant? Mais comment on faisait sans? Mais comment on faisait? Comment on faisait? Comment on faisait avant? Mais comment on faisait avant? Mais comment on faisait sans? Mais comment on sait, comment on sait,
Et tout de suite, nous allons revenir sur Métarhythmique. Mais d'abord, je tiens juste à m'excuser pour ceux qui regardent le stream. En effet, nous avons quelques petits problèmes techniques. Normalement, ils vont être résolus. Mais d'ici là, si vous voulez être sûr d'avoir le son, n'oubliez pas qu'il y a le site radio-saint-vincent.fr où vous pouvez écouter la radio. Et ça marchera toujours.
Métarhythmique sur Radio SV.
Et maintenant, nous allons continuer avec Servan qui va nous raconter toute une histoire.
Et oui, du coup, pour ce qui est de l'impact d'Internet sur les artistes, donc comme on a pu le voir avec Christophe plus tôt, cela fait 20 ans que l'industrie musicale connaît des perpétuelles mutations, et cela depuis la crise de la vente de CD. Le partage de musique libre et illimitée a permis de relancer cette industrie, grâce à Internet. On ne vend pas la musique, on la partage, nous disait le compositeur et chef d'orchestre américain Leonard Bernstein. Et c'est d'autant plus adéquat à l'heure du streaming. Grâce à l'arrivée de YouTube, Spotify ou encore Deezer en France, une alternative au téléchargement illégal se crée et permet de relancer financièrement l'industrie musicale. Grâce à leur service d'écoute large et illimité sous forme de location, les sites de streaming représentent 85,2% des revenus de la musique en 2017 contre 12,3% pour le téléchargement en ligne. Mais malheureusement, le streaming a un impact sur la façon de rémunérer les artistes qui est beaucoup plus faible que lorsqu'on achète un CD. Il est totalement logique que la rémunération des artistes diverge entre un album acheté 15€ et un abonnement de 10€ par mois qui doit rémunérer tous les artistes que nous écoutons. Est-ce que vous savez en moyenne combien est payé un artiste sur les sites de streaming ?
Environ entre 10 et 12% s'il a de la chance, en fonction de ses majors.
Et genre,
qu'est-ce que tu entends par 10-12%? Par exemple, combien d'euros, de centimes d'euros tu donnerais pour une écoute?
Pour une écoute?
Ouais.
Oh, rien.
Moi, je dirais vraiment quelques centimes, max 10.
Non, c'est
même
beaucoup
pas,
moins.
Même pas, ouais.
10 000 écoutes, c'est environ $5. Donc...
Ouais, en gros, on est vraiment en dessous du centime, voire en dessous des 2 centimes, mais ça, c'est pour Napster. Et oui, Napster est le plus généreux. Il rémunère que de 0,016 € par écoute. Donc, c'est même pas 2 centimes. En gros, si un artiste veut gagner 100 €, il doit soit vendre 100 albums, soit être écouté 250 000 fois sur un site de streaming payant, soit plus d'un million de fois sur un site gratuit comme YouTube. Tout cela est fortement critiqué par les syndicats d'artistes, surtout lorsque les artistes n'ont souvent pas accès aux revenus versés par les plateformes, aux labels, et n'ont conscience que des royalties négociées entre eux et les maisons de disques. Alors, comment sont répartis l'argent que nous dépensons tous les mois sur ces sites de streaming pour ceux qui payent un abonnement ? En moyenne, nous payons 9,99 € par mois. Donc il y a 1,99 € pour les taxes dues à l'État. Et oui, ils sont partout. 1 € pour les droits d'auteur. 6,54 € pour les intermédiaires, qui sont les producteurs et les plateformes de streaming. Les producteurs prennent 70% et les plateformes de streaming récupèrent 30% de ces 6,54 €. Si vous possédez un bon cerveau mathématique, il ne reste donc plus que 46 centimes pour les artistes, soit 22 fois moins que le travail autour de sa diffusion. Enfin. Mais le travail autour de cette division va générer. Après, pour ce qui est de notre cas réel à nous, par exemple en tant qu'étudiant, on a des prix qui nous permettent de payer que 4,99 € par mois, ou même si on fait partie d'une famille qui adore Spotify, on peut payer 15,99 € par mois pour aller jusqu'à 6 comptes. Ils ont même maintenant un abonnement duo à 12,99 €. Ces forfaits donc donnent l'accès à 2 ou jusqu'à 6 comptes. Cela permet de réduire considérablement le prix d'abonnement de chaque utilisateur et donc la rémunération donnée à ce service.
Mais du coup, est-ce que le pourcentage est le même par rapport aux abonnements normaux ?
J'allais y venir. Du coup, alors, en 2019, Spotify ayant jugé être trop généreux, c'est vrai que lui, avec son moins d'un centime par écoute, est vraiment très généreux, eh ben, il a mis en place un nouveau système pour comptabiliser les écoutes. En fonction du compte utilisé, l'internaute ne rémunère pas de la même façon l'artiste. Donc nous, en tant qu'étudiants, nous rémunérons moins nos artistes préférés que si on payait un abonnement à 9,99 €.
Ah oui.
Il faut aussi savoir que ces services de streaming comptent 1273 millions d'utilisateurs, mais seulement 93 millions possèdent un abonnement payant. On peut prendre le cas par exemple de Taylor Swift, qui avait décidé de retirer toutes ses musiques de plateformes de streaming en déclarant qu'elle ne pense pas que la musique doit être gratuite, car il ne faut pas sous-estimer cet art. Ses musiques ont été remises en ligne à la suite d'une négociation des revenus avec ses plateformes. Mais c'est pas n'importe qui peut négocier cela avec des multinationales. Le streaming possède quand même du positif pour les artistes, car la diffusion de leur musique devient alors plus simple grâce à Internet et au streaming. Ed Sheeran déclare même que sans Internet, sans Spotify, il ne jouerait pas à guichet fermé dans le monde entier.
Finalement, c'est vraiment le gros problème du « c'est facile maintenant de sortir un titre, mais alors réussir de vivre de ça, ça, c'est une autre paire de manches ».
Voilà, c'est ça. Déjà, le développement de ces plateformes et l'importance en nombre du public touché va permettre aux jeunes artistes indépendants de se faire un nom dans le monde de la musique sans avoir de maison de disques, ce qui était impossible avant. Mais bon, il existe quand même... Enfin, c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup d'artistes, du coup, qui se lancent sur ces sites de streaming. Il existe quand même des solutions qui sont créées par les plateformes de streaming pour permettre à ces artistes d'être un peu plus connus. On peut prendre l'exemple, par exemple, de Deezer, qui a ses playlists en fonction du genre. Et il y a quelques jours, j'écoutais le podcast « Pourquoi pas toi ?» de Constance Chenot, qui interviewait Narges Bar, qui est édito rap chez Deezer France. Et c'est-à-dire qu'elle est chargée des choix des nouvelles musiques rajoutées aux playlists rap de Deezer. Donc clairement, son travail, c'est d'écouter des musiques du rap toute la journée, donc c'est plutôt cool. Elle encourageait vivement les artistes indépendants qui la contactaient, car oui, elle se fait contacter de partout, que ce soit par mail, par DM, même par LinkedIn, et oui. Et donc, elle décide d'abord de se... Enfin, elle explique qu'en gros, avant de la contacter, il faut d'abord se développer un peu plus et créer une communauté avant de demander à faire partie de ses playlists pour se faire découvrir. Car à cause de la démocratisation du coup de l'accès aux sites de streaming, la musique est devenue plus libre de diffusion et donc d'écoute. Mais quand on veut atteindre un certain niveau pour prétendre à être dans une playlist comme celle créée par Deezer qui est un service reconnu, il faut déjà posséder un environnement. Quand elle parle d'environnement, elle nous explique qu'elle ne parle pas de devenir une superstar. mais qu'il faut une communauté derrière l'artiste et une attente de la part de cette audience. Le but est que s'ils font une playlist, même sur un artiste en développement, il faut que cela intéresse une audience, donc répondre à un besoin d'un public, et c'est le principe même d'un service. Du coup, même s'il existe des algorithmes sur ces sites de streaming qui nous permettent de découvrir de nouveaux artistes, ils favorisent souvent les artistes déjà connus plutôt que les petits artistes. Il faudra donc que ces jeunes artistes se développent avec des solutions tierces comme les réseaux sociaux.
Eh oui. Merci beaucoup, Servane, pour cette chronique.
Eh ben, de rien.
Voilà. Est-ce que Lucas, toi, est-ce que tu as déjà eu des revenus sur quelques des deux albums, finalement?
Oui, on a eu des revenus. Je suis très d'accord avec les points que tu as pu soulever. Il y a beaucoup de choses, en effet, qui sont très problématiques. Deezer, avec leur politique de playlist, c'est un petit peu bancal, selon moi. Parce que si tu vas dans une playlist rap, dans une playlist, par exemple, rap découverte, qui est une playlist que Deezer propose, mm-hmm. tu veux de la nouveauté et non pas du Jossman, qui a 1 million d'auditeurs. Ça, pour moi, c'est complètement... c'est un petit peu... on cherche de la nouveauté, on te donne quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau, ou du moins pas... Et surtout, à part du principe que si c'est pas connu, c'est que c'est pas bien. Enfin, que c'est pas bien. C'est que ça ne mérite pas d'avoir la même visibilité. C'est compliqué pour elle, parce que, comme tu dis, elle vend un service. Donc, elle doit vendre ce service et que ça plaise au plus de personnes. Mais là, les revenus, ça tourne autour de... J'ai dû gagner 20 dollars.
20 dollars.
20 dollars pour plus de 30 000 streams.
C'est pas beaucoup.
Et encore... Je suis plutôt bien placé parce que certains sons qui ont marché ne sont pas explicites. S'il y a des insultes, on divise par 2, par 3, par 4, par rien en fait. Tu peux finir avec rien du tout.
Et donc du coup, certains styles, mais notamment comme le rap, et où ça peut être facilement explicite, c'est encore pire du coup.
On n'est pas les pires. Je pense que le pire, c'est vraiment le milieu rock, metal, où là, il y a vraiment en termes de revenus une descente complète. Parce que c'est souvent aussi en fonction, comme tu dis, des gens qui vont payer. La musique classique, par exemple, est très bien rémunérée parce que la plupart des gens qui vont en écouter ont un abonnement payant. Ce sont des gens qui ont les moyens, enfin, c'est social, c'est tout ça. Oui. Mais tout dépend aussi voilà, de l'audience. Et en effet, les multi-comptes, c'est l'enfer en fait, pour les artistes. Parce qu'on pense faire une bonne affaire et en fait, on met un coup de couteau dans certains petits artistes. Après, ça reste un coup de couteau minime. Mais, oui. Mais c'est une problématique qui est intéressante d'avoir soulevée, franchement.
Enfin, quand même, on passe quand même de quand on a un compte famille avec des potes, par exemple. On peut aller jusqu'à 6 personnes dans ce compte famille qui est à 16 euros. Donc ça fait même pas 3 euros alors qu'on aurait pu prendre chacun un abonnement à 10 euros. Donc quand même, c'est...
Je pense qu'on gagne plus avec une vue qui vient d'un compte gratuit qu'une vue qui vient d'un compte qui regroupe 6 personnes. Parce que le gratuit ne rapporte un petit peu, en fait. La publicité, ça rapporte un petit peu.
Vous avez les statistiques en... Non.
Tout est très, très, très bridé, très, très simplifié. Pour avoir les données, il faut être dans un major principal qui ont signé, par exemple, Deezer. Il n'y a que Universal et Warner. Si t'es pas dans ces trucs là tu peux pas avoir accès à toutes les données.
Et oui. Et par comparaison, à l'époque où internet n'était pas encore présent, c'est pour réussir à sortir, il fallait surtout réussir à se faire repérer par des producteurs qui après nous donnaient les moyens de faire un enregistrement, qui à l'époque c'était beaucoup plus compliqué avec la bande et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, une fois que notre titre était sorti, on avait déjà beaucoup plus de chances de fonctionner. C'était pas garanti, mais c'était déjà bien mieux.
Je sais pas.
Honnêtement, ça paraît assez logique vu que on a moins de choix et donc on ressort plus du lot vu que le lot est plus petit finalement.
Beaucoup plus de gens font de la musique aujourd'hui aussi qu'il y a 30 ans. Ça, c'est une réalité. C'est beaucoup plus simple de faire de la musique en tant qu'amateur aujourd'hui.
Et ça, Tristan pourra nous en parler d'ailleurs.
C'est beaucoup plus simple. C'est bien. C'est plutôt une bonne chose.
Ah oui. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. On va continuer avec le jeu, mais d'abord, on va se faire une pause musicale. Nous allons écouter du Daft Punk avec leur titre Voyageur. Voilà, vous pourrez profiter, vous pourrez voir Daft Punk qui, d'ailleurs, maintenant nous a quittés, malheureusement. Donc, j'ai envie de dire, ils sont pas morts, mais voilà. We'll be right back. Voyageurs de Daft Punk, vous êtes bien sur Radio SV, il est 21h15. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Radio SV ou parfois encore Radio Saint-Vincent, n'hésitez pas.
Metteur rythmique sur Radio SV.
Et à présent, Martin nous a concocté un petit jeu musical.
C'est ça, c'est un quiz sur, comme je vous l'ai dit au début, les tops, les vidéos les plus vues sur YouTube. Bon, pour commencer, est-ce que vous connaissez le morceau qui a le plus de vues sur YouTube?
Alors, il y en a eu plusieurs, ça a changé.
Là, le morceau le plus vu, je vous donne un petit indice, c'est pas vraiment une musique, c'est un peu une musique pour enfants.
Ah, parce que moi j'aurais dit un truc, à l'époque c'était Gangnam Style, mais là c'était en 2012.
Ça doit être américain?
Ah, pas du tout. Enfin oui, c'est anglais. Ça doit être anglais. C'est surtout les Asiatiques qui la regardent.
Donc pour enfants.
C'est Baby Shark.
Exact. C'est Baby Shark, ouais. Bon, on va pas l'écouter plus longtemps parce que ça rentre un peu dans la tête.
Oui. Après, elle a fait combien de vues?
Elle a fait 9,9 milliards de vues, donc là bientôt 10 milliards.
Ah, ah oui. Et Despacito en comparaison, c'était combien?
Et du coup, Despacito, elle arrive en deuxième position là et elle a fait 7,6 milliards de vues. Donc je sais pas si vous vous souvenez de l'air de Despacito. C'est les souvenirs d'été un peu.
Ah ouais.
Et du coup, en troisième position aussi, on retrouve Shape of You.
Ah ouais.
Et du coup, ce morceau-là de Ed Sheeran, il a fait 5,5 milliards de vues aussi.
Ah ouais. Voilà. Ah, il a bien bien marché.
Il a bien cartonné avec son album. Ouais.
Non, ouais. Après, c'est intéressant de se dire que, en attendant, 5,5 milliards de vues, c'est quelque chose qui était fou. Enfin, je veux dire, à l'époque, ça se faisait pas, quoi. Ouais.
Gangnam Style qui avait dépassé le milliard, ça avait été fou en 2012-2013.
Hein. C'est vrai que maintenant, c'est normal.
C'est accepté, ouais. Enfin, c'est...
Du coup, ouais, Baby Shark, c'est un peu un ovni dans les vidéos, quoi. Parce que les enfants, je pense qu'ils doivent spammer le bouton replay, en fait.
Puis on l'a beaucoup entendu, c'est vrai, en tant que meme et tout ça.
Ouais, c'est exactement ça.
C'est un peu comme il y avait eu l'histoire assez connue de quand PewDiePie, le youtubeur avec le plus de millions d'abonnés, s'est fait dépasser par une chaîne de séries indiennes.
T-Series, ouais.
T-Series.
Ah ouais, j'avais bien suivi ça.
Après, ils sont énormément aussi, les Indiens et les Asiates.
Et on s'en rend pas compte, en fait, c'est ça qui est fou.
Ça fait vraiment de l'audience.
Et oui.
Et du coup, la deuxième question, c'était quelle est la musique la plus écoutée en France en 2021 sur les plateformes de stream?
Donc pas YouTube?
Non, que sur Spotify.
Alors là, je pense que je vais pas donner la réponse parce que vu que les plateformes de stream, j'en écoute pas énormément.
En 2021?
Ouais, c'est un son plutôt rap, du coup, parce que le rap, ça a pris vraiment de l'ampleur. Là,
français,
ces dernières années. Ouais, en français. Que français, l'artiste français le plus écouté en France.
Moi, je dirais c'est Lucas avec son album Z.2.
Moi, je pense que c'est Nekfeu.
Nekfeu ?
Son album est toujours dans les top 3 des albums les plus vendus, même 3 ans après, donc je me dis peut-être.
Non, voilà. C'est Naps, La Kiffance.
Ah.
Et ouais, je sais pas si tout le monde a l'air en tête. Faut que je quitte la
France, elle a fait la petite frange. Ça a tant marché que ça ?
Ouais.
Et il y a un chiffre là-dessus ou pas?
Il n'y a pas de chiffre, non. Spotify n'a pas dévoilé les chiffres.
C'est vrai qu'ils n'aiment pas beaucoup partager.
Mais ouais, en vrai, c'est un son qu'on a tous entendu en boîte ou même dans les festivals cet été, quoi. Enfin, pour le peu de festivals qu'il y a eu.
L'époque. Hey, maintenant, c'est bon, on n'a plus totalement besoin de masques. Même si ça reste conseillé, évidemment. Hein, respecter les gestes barrières.
C'est la libération. Et une autre question, quel est l'artiste le plus streamé, du coup, pareil, mais dans le monde, sur Spotify en 2021?
Alors ça devait être encore
plus... Là, je pense que vous allez pas du tout connaître, moi je connaissais pas.
Ah ouais, putain, j'allais dire Kanye West, un truc comme ça.
Alors c'est un...
Est-ce que c'est du rap?
Ouais, c'est plutôt du rap, c'est un artiste portoricain.
Alors là...
Putain. Ouais. Portoricain, ouais. Moi je vous le dis, c'est Bad Bunny. C'est...
Okay.
Ouais, en vrai, on aurait pas dit comme ça. Et il cumule 9,1 milliards de streams sur la plateforme Spotify. Et du coup, je vous propose un petit extrait là.
Ah.
plutôt assez caliente, on va pas se mentir.
Et surtout, c'est très basique,
oui.
En fait.
Ouais,
c'est pour ça. Un truc qui a fait autant de... C'est fou.
Je fais une petite pause, je t'interromps très rapidement pour vous dire que le stream est de retour, ça fonctionne.
Enfin.
Donc vous pouvez venir nous admirer, vous pouvez venir nous voir sur YouTube, hein, la chaîne c'est Radio Saint-Vincent. Donc vous allez sur Radio Saint-Vincent et le stream s'affichera directement sur la page d'accueil.
Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est hyper basique, mais je pense que c'est ça qui marche en final.
C'est international,
ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ta pote a parlé de Taylor Swift tout à l'heure, et en fait c'est l'artiste là qui arrive en numéro 2. Des écoutes sur Spotify en 2021.
Première artiste féminine du coup du monde.
Ouais, c'est ça.
Cool.
Exactement. Et du coup aussi il y a la chanson la plus streamée. Je sais pas si vous l'avez aussi.
Au monde.
Ouais, au monde. C'est une artiste qui est assez jeune. Elle a sorti un.
Sia.
Non, c'est je vous le dis, c'est Olivia Olivia Rodrigo.
Rodrigo, ouais.
Avec son titre Driver License.
Ça ressemble un peu à du Sia.
Ouais. Ça date de quelle année cette musique?
Celle-là, bah, elle est sortie en 2021.
2021,
ouais.
Oui, bah oui, ça va très vite.
Elle a vraiment bien fonctionné, que ce soit sur TikTok ou des choses comme ça.
C'est ça aussi maintenant.
Puis,
hein,
même il y a eu vite, des dramas avec et tout.
Ouais, ça raconte l'histoire de son ex qui l'a quitté.
Pour une blonde, et la blonde c'est une autre chanteuse. Du coup, la blonde elle a aussi fait une musique après. Enfin, vraiment.
Ça fait un peu des dramas, ouais. Mais du coup, elle cumule 1,1 milliard d'écoutes sur Spotify. Et après. Le titre qui arrive en deuxième position, c'est Montenero de Lil Nas X. Lui aussi, il a fait des bons chiffres cette année. Il a bien explosé à l'international.
C'est assez intéressant parce que vraiment, il y a des fois, avec Internet, on explose. Et parfois, il y en a même qui comprennent même pas pourquoi.
Ouais.
C'est fou.
Alors, il y a eu l'exemple de Weshden très récemment, par exemple.
C'est un peu un ovni pour moi, elle aussi.
Et ça a été ça. Ça a été grâce à TikTok et ce genre de choses-là que tu parlais aussi.
Mais les ovnis de nos jours, c'est... on y en a tout le temps, en fait.
C'est ce qu'on veut.
Je veux dire, Baby Shark.
On veut de l'originalité, ouais, c'est ça. Ils attendent les gens attendent de l'originalité. Et...
Mais pas trop. Parce que ça, c'est quand même assez.
Ouais.
On a l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part, quoi.
Ouais.
C'est des musiques qui fonctionnent. Mais c'est agréable à l'oreille, ça nous réconforte aussi.
C'est clair. Et j'ai une dernière question. C'est est-ce que vous connaissez le nombre de. Enfin, le temps moyen d'écoute par semaine en France de musique sur les plateformes?
Le temps moyen d'écoute, alors il y en a qui passent leur journée et il y en a qui. Alors ça comprend que les utilisateurs actifs?
Oui.
Donc là ça peut aller très vite, là ça peut aller très
C'est
bon.
Moins de 5 heures.
Plus.
Non, par semaine.
Par semaine, donc
par
hebdomadaire.
Semaine, pardon,
hebdomadaire.
Hebdomadaire, mais par personne ou.
Par personne, ouais.
Enfin, on fait la moyenne et puis.
Hebdomadaire, là.
Allez-y, donnez un chiffre comme ça.
Moi je dirais 24 heures.
Ouais, c'est ça, c'était 15 heures.
15 heures.
15 heures, ouais. C'est, en gros, c'est une étude qui a été menée par la Fédération internationale de l'industrie phonographique en 2018. Et ouais, c'était ça, c'était 15 heures en France. Et nous, les Français, on était un peu en dessous de la moyenne mondiale, qui était de 18 heures. Et du coup, pour eux, ils ont fait aussi. Il y a eu d'autres chiffres qui découlent de cette étude. Qui dit que 3/4 des consommateurs utilisent un smartphone pour écouter de la musique. Et le résultat monte à 94% chez les jeunes entre 16 et 24 ans.
Ouais, bah
oui. Y a aussi d'autres infos, c'est que le streaming légal à la demande est désormais utilisé par 86% des auditeurs dans les 20 pays étudiés.
Par rapport au CD, à tout ça,
ouais,
aux achats.
En cumulé, en fait, ils demandent sur quel support t'écoutes la musique. En général, et à 86%, c'est sur un smartphone.
C'est écrasant.
C'est fou. Hein.
Ouais. C'est écrasant par rapport au CD. Hein.
Le CD et tout, le vinyle. Après, c'est normal. Hein.
Alors, le vinyle, ça, je me permets de faire une parenthèse parce que c'est un truc de fou. Le vinyle, c'est quand même un support qui, concrètement, techniquement, est vraiment plus mauvais que le CD qui date de 85 hein, sur tous les points. Ça a une dynamique pas folle et tout. Et ça s'habille au fil du temps et c'est revenu. Et pour vous dire que les vinyles là, qui produisent de nos jours, ils utilisent toujours les machines de l'époque qui ont plus de 50 ans. Parce que ils en ont pas d'autres en fait.
Bah là en 2021 les ventes de vinyle ont dépassé celles du CD aux USA. Enfin aux États-Unis.
Ah ouais.
Par rapport au CD.
Mais c'était rétro tout ça.
Ça c'est fou.
C'est la pochette, c'est tout, ça,
c'est devenu pareil pour le CD hein.
C'est l'objet.
Avec Orelsan qui a vendu plus de 230 000 disques alors que personne n'a de lecteur CD, enfin très peu et encore moins de gens qui ont un lecteur CD vont mettre le CD pour l'écouter.
Bah, dans les voitures, il y a encore un petit peu mais ça devient de plus en plus rare.
Peut-être. Mais c'est surtout pour l'objet.
ouais. la pochette, le fait de soutenir aussi directement l'artiste, comme tu parlais.
Parce que je sais que nous, j'ai des potes là qui voulaient sortir des vinyles en indé et c'est assez cher. Hein, pour, c'est 1 200 € pour 100 vinyles. T'as intérêt à les vendre, ouais. Et pour 300 vinyles, c'est 1 500 €. Donc en fait, plus t'en prends aussi, plus moins.
C'est tout le principe.
Ça fait pas beaucoup de. Donc voilà, c'était un peu les chiffres du moment, quoi.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin, pour ce jeu. C'était très sympa. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux combien vous avez eu, si vous avez bien réussi ou pas ce jeu. Moi, j'ai pas réussi. Clairement.
C'était assez difficile.
Mais en même temps, je suis pas très. J'écoute pas beaucoup sur les réseaux. Je suis un peu un ovni, mais quand on fait des études de son, on aime bien les bons fichiers. Voilà. Bref. Du coup, on va reprendre et on va on va réécouter un peu de musique.
Balance ta dédicace à ta radio préférée.
Et afin d'introduire proprement la chronique de Tristan, il faut bien vous écouter une musique qui a été faite non pas par un artiste très connu, mais par quelqu'un un peu moins connu. Et oui, parce que je vous rappelle que Tristan va vous parler des Home Studios, alors ne quittez pas et restez bien là jusqu'au bout. Vous allez voir, ça va être super intéressant.
Sometimes you make me feel crazy. Sometimes you make me feel so good. When I'm with you, things get hazy. And I'm burning up, cause you have got that good, good. I know you'll never forsake me. No, no, no. Sometimes you make me feel so good, yeah, yeah, yeah. When I'm with you, things get easy. So I'm running up as you have got that good, good. You have got that good, good. We'll be right back.
Burning Up de chez Shire avec la chanteuse Megan Hamilton. Vous êtes toujours Radio SV, il est 21h30. Et vous savez quoi ? Mon co-animateur s'est transformé.
Eh oui.
Il s'est transformé en Tristan Landreau. Bonjour.
Bonjour. C'est quand même beaucoup mieux hein, comme animateur.
Oh.
Hein,
comme co-animateur. Ah, il était sympa et franchement, oui, le jeu était magnifique.
Oui, c'est vrai.
Alors, de quoi t'es venu nous parler du
coup ? Alors, moi, je vais vous parler des home studios. Et donc j'ai commencé par donner ma définition du home studio. Donc déjà ça peut se traduire par studio maison pour les gens très nuls en anglais.
Studio maison.
Ouais, on va appeler ça comme ça tout le long de la chronique, studio maison.
Mais j'ai envie de dire c'est assez représentatif de ce que c'est, non ?
Oui, c'est ça. Bah c'est pour ça qu'en anglais c'est home.
Bah non,
c'est vrai.
Balance. Allez.
Alors donc pour ceux qui ne sont pas initiés à la production de musique, c'est une installation qui permet d'enregistrer, produire et ou mixer de la musique depuis son domicile. Avec cette installation, on peut s'arrêter à un ordinateur et un casque. Si vous n'avez pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit, ni de mixer quoi que ce soit, en gros, si vous faites de l'électro et que vous êtes très fort pour vous persuader de votre propre talent. Mais on peut également... ouais, je suis un peu méchant. Mais on peut également y ajouter une carte son, des micros, des surfaces de contrôle. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça ressemble à un truc avec des boutons. Bref, chacun fait un peu à sa sauce en fonction des besoins et surtout de leur budget.
Eh oui. Plus ouais. On a de boutons, plus on est professionnel. Ça, c'est la règle, c'est les RGS.
C'est la règle. Ouais.
Exactement. Ouais, bah, c'est comme ça qu'on voit un vrai professionnel.
Il y a beaucoup de boutons ici.
Beaucoup de boutons.
maintenant que tout le monde sait de quoi il s'agit, je vais vous faire un petit point historique, histoire de comprendre l'impact du home studio dans la musique actuelle. Donc, on commence en 1980 avec l'arrivée des enregistreurs cassettes 4 pistes qui permettent aux musiciens de s'enregistrer chez eux pour ensuite s'écouter avec leur Walkman. À l'époque, on est bien loin de la qualité d'un enregistrement professionnel. Enfin, bref, personne autour de la table n'a connu les années 80. Donc je vais passer directement aux années 2000, puisqu'on s'en fout de ce qu'il y avait avant nous.
C'était l'époque où on en rembobinait avec son crayon pour économiser sa batterie.
Je sais pas, j'y étais pas.
On avait un Walkman.
On voit ça souvent raconté sur Internet, c'est assez amusant.
C'est vrai. C'est vrai.
Pour ceux qui ont vu la série, bref.
Donc dans les années 2000, avec l'évolution de l'informatique, on se rapproche de la capacité de traitement d'un studio, mais encore faut-il disposer d'un ingé son à domicile, et c'est quelque chose de quand même très compliqué à trouver, mais vous pouvez toujours retourner votre canapé, on sait jamais, derrière un coussin, ça peut se trouver. Mais même si vous en trouvez un, le principal problème reste l'enregistrement. La différence entre le studio professionnel et le home studio a perduré par la qualité du matériel employé, donc les micros, les préamplis et plein d'autres termes techniques dont tout le monde se fout. Mais aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Donc là, je reviens dans les années... vous avez vu la transition, genre...
Magnifique.
La
okay, série, ouais, aujourd'hui. Ouais.
Les prix ont baissé, donc les prix du matériel ont baissé. La liste du matériel conçu spécialement pour les home studios s'est allongée. La qualité s'est bien sûr améliorée, à tel point qu'en 2019, Billie Eilish remporte le Grammy Award de l'enregistrement de l'année avec le titre Bad Guy, un titre enregistré à la maison avec une config assez minimaliste. Il a suffi d'un Mac, d'une carte son, un micro, des enceintes, une couette. Alors, je vous fais pas le détail de la config, elle est assez facilement trouvable sur Internet, mais j'ai chiffré le tout à un peu moins de 5000 euros. Ce qui, je pense, c'est assez vite remboursé quand même.
Dont un cinquième pour le micro d'ailleurs. Hein. Pour les connaisseurs, c'est un TLM 103.
C'est ça.
Oui.
Eh oui. Là, on voit ceux de l'Estraki.
Oui, oui, bah ça, c'est un truc de connaisseur. Moi, j'y connais rien, du coup, je l'ai pas mis.
Bah, oui, bah en même temps, j'ai envie de dire, tout le monde s'en fout. C'est un bon micro, c'est ce que vous devez retenir.
Oui. Donc, avec ça, le cocktail SoundCloud Home Studio a permis à un nombre incroyable d'artistes indépendants d'émerger avant même leur majorité, comme par exemple le regretté XXXTentacion et plein d'autres, je sais pas, Juice WRLD, Chance the Rapper, il y en a plein. C'est d'ailleurs ce qui a complètement changé la manière dont on découvre un artiste et le rapport entre les maisons de disques et les artistes, puisqu'avant il fallait signer en maison de disques pour être connu, et maintenant il faut être connu pour signer en maison de disques. Du coup on se demande encore à quoi elles servent, mais elles doivent servir à quelque chose. L'utilisation du home studio est notamment très fréquente chez les rappeurs. On peut citer les séances d'enregistrement présentes dans le documentaire Xelodoc du rappeur Vald, où il enregistre dans un placard rempli de coussins. On peut également retrouver des images de Travis Scott enregistrant dans son salon avec une serviette sur la tête. D'ailleurs, sa première mixtape avec laquelle il s'est fait connaître a été entièrement produite, enregistrée et mixée par ses soins en home studio. Le nombre de tutos YouTube pour mixer sa musique ne cesse d'augmenter. Il existe un certain nombre de sites internet entièrement dédiés au home studio. Donc si vous avez, je sais pas, 8 heures à perdre, vous pouvez devenir un G-son assez rapidement en fait. et je suis perdu dans ce que j'ai écrit, c'est fou. Il y a même des sortes d'influenceurs du home studio un peu partout sur TikTok. Enfin, je sais pas si vous avez vu ça, moi j'en ai plein. Des gens, même de 14 ans, qui sont là. Alors moi je mixe ma voix comme ça, c'est très drôle.
Ils sont meilleurs que nous.
Oui. C'est ça qui est fou. Bref, le home studio s'est complètement démocratisé. Hein. Maintenant, n'importe qui peut s'en monter un pour assez peu de budget. Les voix off, on en a toutes un chez elles. Enfin, ceux qui font ça professionnellement, c'est assez facile. Et pour moi, il y a quasiment que des avantages à ce phénomène, puisque ça permet à n'importe qui d'avoir les armes pour se lancer dans la musique, d'apprendre les bases du métier d'un G-son s'il le souhaite. Donc ça ouvre plus de curiosité. Après, le bémol que je vois, bah, c'est que du coup, les ingé-sons de musique, ils vont voir leur métier un peu disparaître avec le temps. Mais ça, après, on peut en débattre. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître votre avis sur le home studio. À vous.
Alors déjà, qui est en home studio ici?
Donc, moi. Oui, il faut que tu le dises parce que les gens ne voient pas
le délai. C'est vrai que c'est très con. Non, mais je suis plutôt d'accord. Alors, je pense pas que le problème, c'est que les ingé-sons disparaissent. Mm-hmm. Je pense pas que la grande majorité des ingé-sons bossent dans des studios d'enregistrement de musique.
Non, pas la majorité. Par contre, il y en a, ils font que ça. Quoi.
Ouais, c'est ça, forcément. Par contre, le problème, c'est que je pense que c'est la baisse de la qualité de la musique. Beaucoup vont se permettre de dire, bon, bah, puisque j'ai un micro à 200€, et puis que j'ai Ableton ou FL Studio, grâce à ces logiciels-là, je suis professionnel. Donc j'ai pas besoin de passer le cap. Alors qu'aller en studio, au-delà de l'aspect matériel, il y a l'aspect accompagnement, avec un ingé-son justement qui va t'aiguiller sur comment enregistrer ta musique, comment faire ça. Ouais. J'ai l'impression même, par exemple l'effet SoundCloud, beaucoup de sons sont très bien, mais dégueulasse à écouter, tu vois. Genre ouais. le tu sens que t'aurais dû l'acheter un cacheton pour qu'un pro puisse revenir sur ton son. Et faire quelque chose de propre.
Ouais, après, ça donne une esthétique particulière.
C'est ça, c'est bien sûr. Puis, il faut bien débuter quelque part. Puis, certains sont, comme tu dis, Travis Scott, sont presque devenus experts dans ça, en fait. Ouais, jouer à fond sur ça.
Voilà. Et en tout cas, ça rejoint totalement le phénomène du... c'est très facile d'apparaître et faire sa musique. Le plus difficile, c'est de se faire connaître et d'apparaître parmi la masse.
Ouais, c'est ça.
Et dans SoundCloud, il y a tellement de gens qui postent, mais alors réussir sur SoundCloud... C'est possible, mais vu le nombre de gens qui postent, c'est un petit pourcentage.
Ouais, mais ça va même pas jouer sur la qualité de l'enregistrement, ça va jouer sur l'artiste en fait. Voilà.
C'est assez intéressant parce que les musiques elles se métamorphosent maintenant, elles sont plus courtes, elles sont plus. Le but c'est surtout de capter l'intention en fait.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est pas un reproche que je fais, c'est vraiment juste un changement de style et qui s'opère au fil du temps.
Il faut complètement changer la manière en fait dont t'as de produire de la musique, faire une intro par exemple d'une minute trente. Sur une musique, c'est plus vraiment possible aujourd'hui dans un son grand public parce que c'est long et les gens ils ont pas le temps. Sur TikTok, si ton truc il met 5 secondes de trop à se charger, tu dégages, tu passes au prochain.
Oui,
et la musique ça se consomme un peu comme ça. C'est très. Mais ça permet aussi de en tant qu'artiste d'essayer de trouver des méthodes pour que dès le début tu prennes l'auditeur et que tu le saisisses.
Après,
faut jouer avec ça. Quoi.
J'ai trouvé un truc, il y a un excellent moyen de passer sur TikTok, c'est tu dis des phrases genre personnelles en étant un peu. C'est un peu genre agressif et tu vas voir toutes les collégiennes reprendre le son et genre ça me touche trop, c'est trop ma vie, tu vois. Oui. Et donc là hop, des millions de streams et tout, c'est sûr,
c'est la recette miracle.
Et voilà. Ok, ouais.
Bah voilà, c'était donc mon avis à moi sur le home studio. Je suis très content d'avoir pu vous en parler avec vous.
Bah oui, bah c'est intéressant, hein. Et vous savez, maintenant les home studios il y en a partout, ils se cachent un peu partout dans les campagnes.
Ouais.
Sur les réseaux sociaux.
Et donc du coup, il y a les ingé-sons, il y a les agé-sons maintenant. Les ingé-sons qui sont professionnels, les ingé-sons qui
sont sur Radio SV.
Qui se disent professionnels. Et il y a aussi les ingé-sons qui ne se disent pas professionnels et qui pourtant le sont. C'est des pépites.
Ouais,
ils sont un peu rares, mais ça existe.
Ouais, il y a des autodidactes qui sont incroyables.
Sur SoundCloud, entre autres, il y a des gens, ils font du travail de barjo et ils ont 10 écoutes. Quoi. C'est impressionnant.
Ça aussi.
Et oui. Mais en tout cas, je dois vous dire que le principe du refrain pont intro à guicheuse, ça relève de bien avant l'aspect d'Internet.
Ouais.
C'était en 1930 que ça s'était fait. Et c'était à l'époque où, pour ceux qui voient un peu à quoi ressemble une console d'enregistrement, les faders n'existaient pas, c'était que des boutons à tourner. Ça donne encore plus un aspect bouton-bouton, rien incompréhensible.
Ouais, carrément.
Ouais.
Voilà.
Et on aime ça, tourner les boutons.
Ah, puis aujourd'hui, il y a des outils, c'est vachement simple. Enfin, il y a même maintenant des applis, ça t'applique des effets de voix qui sont nickel, grâce à l'IA, grâce au truc. Presque au point où, quand on aime le son, on se dit, putain, mais dans 10 ans, qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, Est-ce que le métier aura le même sens, sachant qu'avec les IA, avec les choses, tu peux faire des mixages qui sont certes pas humains, mais qui te facilitent en tout cas la tâche d'une manière, je trouve, exceptionnelle. Quoi.
Okay. Ouais. Mais c'est... le truc, c'est est-ce qu'on s'en fout ou pas que ça ait le même sens ? Parce que c'est sûr que ça n'aura pas le même sens. Mmh. Mais après, ça peut être cool quand même.
Mmh. C'est ça.
On verra bien.
Très personnel, ça, comme, comme façon de voir la chose.
Ouais. Eh oui. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cette chronique. Rien. Voilà, ça fait plaisir. Je vais vous faire une pause rapide musicale, profitez-en bien, et restez jusqu'au bout, parce que tout de suite après, on se retrouve pour le live de Lucas. Vous n'allez pas être déçus. Tout de suite, du coup, Somatost avec Broken Beats, son titre de son album Live Dreaming. C'est quelqu'un qui est en home studio. Thank you. Somatost et son titre Broken Beats, Broken Beats de son album Live Dreaming. Et si vous le connaissez, toutes mes félicitations. Vous connaissez peut-être aussi le label Gravitas Recording. À votre info, c'est le genre d'album qui est aussi disponible en achat numérique. Beaucoup de gens oublient ça, mais ça existe aussi finalement, les albums numériques. Bref, eh bien les amis, il est temps de passer à la partie que vous attendiez tous. Il est temps de mettre en honneur notre invité, Lucas. Bonjour.
Bonjour, rebonjour du coup.
Lucas, c'est bien ton nom d'artiste, est-ce que c'est aussi ton prénom ?
On va dire que oui.
Allez, on va dire que oui, allez. Alors, Lucas, est-ce que tu pourrais un peu te présenter rapidement ?
Ouais, alors, je fais de la musique depuis maintenant, toujours. Et j'ai commencé par les instruments classiques, trompette, ce genre de trucs-là. Puis là, ça va faire 5 ans que je suis à fond dans le rap, dans la musique urbaine plus globalement. Et ça fait 5 ans qu'on essaye de faire pas mal de trucs avec le label et tout ça.
Ok. C'est quoi le nom du label ?
C'est Visio Records.
Visio Records. Il y a combien d'artistes derrière ce label ?
Alors, on est 4.
4 ?
On a été plus.
Ok.
Ça a plutôt fluctué, mais les personnes qui sont là, ça fait 4 ans qu'on est avec. Et on a un groupe qui fait qu'on bougera pas. Enfin, on...
Ok, d'accord. Et du coup, vous êtes tous orientés rap ? C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Oui. Ok, d'accord. Alors,
ça peut être très variant. Hein. On a un beatmaker, par exemple, qui peut faire de la trap, Mélomaniacs, il s'appelle. Il peut faire de la trap, beaucoup d'autres instrus, de plein de styles très différents du rap.
Okay.
C'est pour ça que plus globalement, on dit la musique urbaine.
Musique urbaine.
C'est ça.
Ok, d'accord.
C'est plus vaste.
Donc voilà, Visio Record, on a un label de musique urbaine.
C'est ça.
Ok, ben voilà, c'est un bon début. Alors, parmi des questions que je me posais, qui trottaient beaucoup de ma tête, pourquoi Lucas avec un Z ?
Pourquoi Lucas avec un Z ?
Oui.
Ah, ça, c'est un petit peu la petite blague. J'aurais aimé, en fait, donner une réponse qui fait plaisir. À la base, la seule chose que je m'étais dit, c'est qu'il fallait un nom d'artiste.
Ok.
Je m'appelle Lucas, donc je voulais qu'il y ait le Lucas quelque part. Et vu que j'étais le dernier, puisque je débutais à ce moment-là, en 2017,
okay, oui.
Je me suis dit, un Z. Puis j'ai cherché à la SACEM, c'était pas déposé. Donc j'ai fait Lucas avec un grand Z par rapport au grand S de Aurel San, petite référence voilà. Parce que j'aime beaucoup, et c'est devenu Lucas et je me suis habitué hein.
Pierre Lucas. Bah, et au moins ce qui est bien c'est que c'est facile à retenir finalement.
C'est ça.
C'est un prénom, les prénoms c'est facile à retenir, mais avec un Z
c'est tout à fait ça.
Voilà, Z, pas le Z de Zorro mais le Z de Lucas.
Exactement.
Ça, ok, c'est bon. Alors si on continue, quelle est donc ta discographie, qu'est-ce que tu as sorti depuis que ton nom d'artiste existe?
Alors j'ai sorti 2 EP.
Deux EP.
Qui était pas terrible.
Donc, 2 albums de petite longueur.
C'est ça. C'est okay. Ça. De 3 pour le premier en 2017.
Okay.
De 8 en 2018. Ensuite, j'ai pris le temps, parce qu'objectivement, c'est naze. Hein. Enfin, il faut.
C'est les débuts, tout le monde passe
je
par là.
Je que avec Audacity, sans aucun effet de voix.
Ah.
En faisant des voix comme ça pour essayer de faire des effets. Donc, on était vraiment sur de la débrouille pour essayer de faire un truc bien. Mes amis m'avaient dit clairement, c'était pas ouf. Donc c'est ça bien. M'a mis une claque et je me suis dit ok, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et là on a commencé à bosser en collaboration avec les gens du label pour essayer de, voilà, toi tu vas me faire une prod, toi tu vas mixer, toi tu vas faire telle ou telle chose. Et du coup ça a permis d'avoir Z.1 qui est sorti en 2020.
Donc ça c'est un album complet ?
C'est ça.
C'est un LP du coup ?
C'est ça.
Ok.
Et donc il fait 15 titres. Il y avait encore pas mal de choses perfectibles, donc j'ai sorti la suite, Z.2, qui okay. est sorti en décembre 2021.
Tout récent, tout frais.
C'est ça, tout il sort du four.
Et c'est lui qu'on va vous présenter d'ailleurs.
C'est ça. Et, oui. Et c'est lui où je pense que voilà, on est arrivé à une maturité musicale où on a un style, on a quelque chose, on voit ce qu'on veut présenter. Je dis on parce qu'on n'est pas tout seul en fait derrière le nom. Hein.
Oui,
toute souvent. Une équipe qui est derrière, mais voilà, on pense qu'on a réussi à trouver quelque chose d'assez intéressant à proposer.
Et du coup, vous êtes 4 en tout derrière ça.
C'est ça.
Ok.
Donc moi, il y a Dro. Donc il y a un autre artiste du label qui rappe aussi, qui s'occupe du mixage de mon album.
Okay.
Donc, Mélomaniacs, comme j'ai parlé, qui s'occupe de pas mal d'instru.
Okay.
Et Maxence qui bosse avec nous. Et pareil, donc lui il fait de la musique un peu plus de type chanté. Je dirais un mélange de Kinvey et de Christophe Maé. C'est un peu là quand je vous dis ça, mais ça va vous attirer l'œil, vous allez vouloir okay. chercher. Et voilà, et l'objectif c'est que chacun puisse faire des feats intéressants, et nous le seul objectif qu'on avait du label, c'est un peu prétentieux, mais c'était de faire quelque chose de relativement qualitatif, et de partir du principe que c'est pas parce qu'on est amateur qu'on doit proposer de la mauvaise qualité. Et surtout l'écriture intéressante, nous c'était vraiment ça notre point d'orgue à la base.
D'accord. Ensuite, ça c'est une question toute bête, mais est-ce que Z.1 et Z.2 c'est juste parce que c'est le premier et le deuxième album ?
Complètement.
D'accord.
En fait, c'est des numéros de version de soi-même.
Ok.
En 2020, ça représente.
Un peu comme. Nouvelle version de notre appareil, il est amélioré.
Complètement.
C'est exactement ça.
Ça représente un soi à un moment donné.
Et c'est du coup, c'est ce qui fait la différence entre les deux, ou il y a vraiment plus de trucs que ça ?
Le 1, ça t'explique les prémices du personnage de Lucas, et le 2, ça t'explique la suite de ce personnage-là, comme D'accord. la suite d'un film.
Ok.
C'est, voilà.
Voilà, c'est, ah, c'est intéressant. Et du coup, le prochain album s'appellera Zetland 3 ?
Absolument pas.
Oh.
Non, non, il y a une logique un peu personnelle dans les albums Z, j'appelle ça le projet Z. Non, le prochain, on veut partir sur quelque chose de plus rock, de plus voilà. Oh. Mais Zetland 3 sortira un jour, quand il y aura un intérêt. Le but, c'est que les thématiques que j'ai traitées dans Z.1, on les voit évoluer dans Z.2. Et pour l'instant, ça aurait pas de sens d'en refaire un maintenant, parce que les thématiques que j'aborde n'ont pas évolué. Si un jour ma vie change drastiquement, là, il y aurait un intérêt à raconter un petit peu ce qui se passe.
Ok. Ensuite, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller rechercher sur Internet, parce que je vais parler de l'image d'album. L'image d'album que je vais vous décrire. Alors, du coup, l'image d'album ne peut pas être affichée directement en stream. Non. Du coup, je vais faire autrement. L'image d'album que je peux décrire succinctement, qui est un fond bleu sable avec un rectangle blanc. Alors, je pense que je l'ai. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, l'image d'album ressemble, en gros, je vais vous le sortir. Il ressemble, je sais pas si ça peut marcher à la caméra, mais l'idée, c'est qu'il ressemble à ça. Ça se voit bien en stream ?
Ouais.
Voilà, ça se voit bien. Et alors, du coup, maintenant, la question que j'ai à poser, c'est pourquoi ce rectangle blanc ? Parce que dans Z.1, il existe aussi.
C'est ça.
Pourquoi ce rectangle blanc ?
Alors, ça représente le... Dans Z.1, la pochette est très... beaucoup plus sombre. On est dans un côté très Matrix.
Okay.
Le côté on est entouré d'une fausse réalité, une espèce de métaphore du fait qu'on soit tous voilà, dans les réseaux, les machins, on s'invente tous un peu une vie, puis on l'a tous un peu accepté. Et c'est assez défaitiste comme album. Et là, je voulais qu'on soit dans quelque chose de complètement différent, dans de l'apaisement.
De l'apaisement.
Et pour moi, l'apaisement, le sable représentait vachement ça. Ce côté apaisant, ce côté joli à regarder. Et le carré, dans le premier album, je suis tout petit comparé à lui. Il me mange, ce rectangle-là. Et dans celui-là, il est presque à ma taille. Et moi, je le vois comme une espèce de bulle, ce rectangle-là. Il est ultra dissonant par rapport au reste de la pochette, mais c'est vers lui qu'on veut aller, pas vers le reste. Malgré le fait que le reste soit joli. Mais on veut aller vers ce rectangle très lumineux. Moi, ça représente voilà, l'espoir.
Si l'espoir.
Un peu.
Voilà, l'espoir que ça évolue, le personnage évolue, la qualité musicale évolue aussi.
C'est ça. Ah, et dans Z.3, ce rectangle-là sera forcément là. Et il a un sens pour moi et je compte le développer petit à petit.
D'accord. Eh bien, dis-moi, est-ce que tu es chaud ?
Je suis complètement chaud.
Est-ce que tu es chaud ? Alors, le premier titre s'appelle ?
Indécent.
Indécent. Voilà, Indécent, ce qui fait partie de l'album Z.2.
C'est ça.
Et du coup, je te propose de nous l'interpréter dès à présent. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts ?
Dites-moi quoi.
Il se relève. Ça s'est entendu. Eh bien, on est parti quand vous voulez.
Je suis un humain indécent. Vos cœurs sont froids comme en décembre. Vous êtes malade et je suis le traitement. Mais non, c'est vous qui êtes indécent. Quotidien rythmé par les amis, l'amour donné par toute la famille. Vie aisée sans souci, perturbée et la nuit attaqué, je jaillis devant le miroir. Alors je suis là devant le vrai moi. Il me regarde l'air triste comme si il se reconnaissait pas. Et moi, bah je le reconnais pas. Qui es-tu, énergumène? T'as l'air heureux et je vois plus tes cernes. T'as l'air dans ta peau comme fourrure sur chienne, comme si tu rendais la joie à la planète entière. Je vois dans tes yeux de l'espoir beaucoup. T'es créatif et passionné surtout. Tu me regardes et me demandez-vous comment tu te sens, grand fou. En vérité, j'ai juste l'impression d'être un putain de pantin. Et je vais couper les fils un par un, et un par un, et un par un. Ça prendra du temps, je le sais. J'échouerai pas ça, je le sais. Non, je me bats pas pour une copie de moi modifiée, mais pour mon reflet. Lucas, écoute-moi, je suis là. Rassure-toi, tout ira bien. Il te faut juste garder ton calme jusqu'à demain matin. Trouver ma vérité de par un mensonge, comme si la lumière n'était plus un songe. J'ai bouché mes problèmes dans un puissant fond, un espoir de clore cette putain de saison. Alors je suis là, je souris, et je vois le reflet disparaître. Bon, il est pas vraiment parti, mais il a disparu de ma tête. Et je comprends enfin que je suis trop con. Si je le vois plus, qui c'est qu'il était temps que je comprenne seul la solution. Car faut que je sois fier de ce que je suis. Un commos bizarre, mi-gentil, mi-autiste. Ma hantise pérennise le sous-fifre dans l'antise. Et de perdre la prise avec ce monde qui le branche pas. Autiste, bah... T'inquiète, c'est normal que tu connaisses pas. Tu peux me demander, ça ne me vexe pas. Ouais, c'est génétique, ça se soigne pas. Je suis un humain indécent. Vos cœurs sont froids comme en décembre. Vous êtes malade et je suis le traitement. Mais non, c'est vous qui êtes indécent.
Je pète la vite et je sors. Je suis dans ta tête pour bien foutre le désordre. Faudrait m'arrêter comme forfait Vodafone. J'insulte vos darons car faut être dans la norme. Mais en vrai moi je m'amuse. Pour moi le monde devient ma muse. Je survis en créant de la musique. Je suis loin d'être touché par toutes vos insultes. J'aime sûrement trop les humains. Je me livre trop vite et ça me baise. Je perds trop de temps à être honnête. Je suis un humain indécent, mon être est comme vous différent. Je suis malade mais pas traitement, on est tous touchés finalement. Oh, oh, indécent, oh, oh.
Merci beaucoup Lucas pour cette première interprétation. Indécent. Alors, c'est autiste quoi ?
Asperger.
Asperger, ouais. Parce que c'était le terme qui avait manqué, mais c'est pas grave. Voilà. Ok, mais merci beaucoup, c'était excellent.
Pas de souci, merci. Okay.
Alors, si tu voulais dire, quel message tu voulais faire passer dans cette musique ?
Alors là, le message que... Alors, une des thématiques de l'album, c'est le fait d'assumer le fait que je suis autiste Asperger. Okay. Et j'ai une image très particulière de l'handicap, où moi, je pars du principe que c'est pas quelque chose qui handicape. En fait, c'est une différence, mais on l'a tous en fait. T'as les yeux marrons, t'es différent, t'es machin. Tu dois trouver des solutions pour ça. Et à un moment de ma vie, je pensais que ça, c'est ce qui faisait que soit j'étais supérieur aux autres, soit du moins que je n'avais pas à être comme eux. C'est une erreur monumentale de ma part. Et ce son-là, c'est ça en fait. C'est le fait de se dire oui, je suis indécent. Oui, on l'est tous en fait, à des niveaux différents. Mais l'important, c'est pas le fait qu'on soit numéro 1 contre numéro 2, autiste contre Alice, les Alice c'est les valides, okay. Ça n'a pas de sens, et c'est beaucoup plus intéressant, et ça c'est grave, grâce à mes amis, à mes rencontres que je me suis rendu compte de ça, c'est que l'autisme comme plein d'autres handicaps, c'est un véritable, c'est une pilule en fait, c'est trop bien en fait, et là c'est ce que je dis, quand dans le refrain je dis vous êtes malade et je suis le traitement, c'est, bah, vous voyez, parfois on voit les choses de manière très très neutre, de manière très très grise. Okay. Et bah parfois, voilà, quelqu'un d'indécent, ça peut être lourd, ça peut être épuisant, mais ça apporte quelque chose de renouveau. Et ça, c'est important. Et du coup, dans le message, le but, c'était pas de dire je suis supérieur à vous. Pour ça que dans le reste du refrain, c'est vous qui êtes indécent. Parce que pour moi, c'est tout ce qui m'entoure, je le trouve très étrange. Tout comme les gens trouvent que je suis très étrange, mais c'est trop bien. Ça veut dire qu'on se comprend.
Du coup, finalement, on est tous indécents et on est pareil.
C'est ça.
Ok.
On est tous tarés, mais on se comprend pas dans le fait qu'on soit tarés différemment.
On est tarés. Oui, c'est ça. On est tarés différemment, mais on est tarés. Ça revient en même, finalement.
On a tous des moments bizarres qu'on serait incapable d'en parler, mais c'est pas grave en fait, parce qu'on est bien.
Ok. Eh bien, on va passer à la suite. Allez. Alors, je vous le dis tout de suite. Personnellement, c'est ma musique préférée de l'album.
Oh, la pression, la
ah
pression.
Ah oui, hein. Voilà.
Bon.
Allez, c'est quand tu veux.
Ouais, je suis prêt.
Et là, on est parti, alors.
Ok. Pour tous ceux qui écoutent, parfois, la vie, c'est compliqué. Parfois, on n'a pas envie de voir les choses de manière positive. Là, tu vas voir tes problèmes 2 secondes dans un filtre négatif. Ok. Hey.
Positif dans la tête et ça règle tous mes mots. Et même si c'est pas les nôtres, viens t'appuyer sur mon épaule. Tu verras qu'ici on chante, on se marre et on se trompe parfois. En fait je crois qu'on est comme toi, un petit humain maladroit. Bien sûr t'es pas le meilleur de la terre, mais t'es pas non plus Hitler. Dis-lui donc un peu ton verre et tu verras. Ici les oiseaux volent pas toujours, mais tous les jours tu en entends au moins un chanter sa cour. Et même si en ce moment c'est dur, rappelle-toi que t'es déjà tombé et qu'à chaque fois que c'est arrivé t'es remonté. Tu... Au futur, c'est le dégagé. Vois tes problèmes dans un filtre négatif, 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 négatif. Laisse-moi t'avouer que si t'étais pas déjà ma pote, on serait mariés, mais on se serait peut-être séparés. Mauvaise idée, lui est parti, mais nous on est tous là. Bien sûr, efface pas tous tes souvenirs pour ça. Retiens ce qui t'a fait grandir et pourquoi. Et pour moi, promets-moi une seule chose s'il te plaît. Nous abandonne pas comme lui l'a fait. Car j'ai besoin de ton courage et de ta force pour te relever. Quand moi j'avais papier, t'as su jeter la bouée. Donc me remercie pas, et non tu me fais pas chier. Sinon je mériterais pas d'être assis à tes côtés. Si c'est pas lui, ce sera un autre, ou peut-être pas. D'ailleurs pose-toi la question, pourquoi aimer que les gars. Je plaisante, c'est juste pour occuper ton esprit. Vois tes problèmes dans un filtre en négatif. vois tes problèmes dans un filtre en négatif. Vois tes problèmes dans un filtre en négatif. Je sais bien que aujourd'hui ton monde s'écroule. Écoute, je vais te remonter le moral à base de salut, c'est cool. Et courte le moment où ta peine sera lourde. Et en cas de doute, appelle Lucas à la rescousse. Et oui, car nous on sera toujours là. Mais oublie pas qu'on aura aussi besoin de toi. Le jour où le destin aura choisi pour nous de voir la vie comme tu la vois. Vois tes problèmes dans un filtre négatif. Négatif, négatif, oh, fais pas de négatif. Oh, vois tes problèmes dans un filtre négatif. Négatif, négatif, oh, fais pas de négatif. Oh, vois tes problèmes dans un filtre négatif. Négatif, négatif, oh, oh, négatif, oh. Vois tes problèmes dans un filtre négatif. Négatif, négatif, qu'a-t-elle négatif.
Merci beaucoup.
Désolé pour les 2-3 erreurs, j'ai pris la confiance. Hein.
Ah oui, mais c'était bien. Et en vrai, c'est rassurant. Comme l'a dit les bacs, bravo. Voilà.
C'est ça qui m'a perturbé.
Eh ben oui. Et voilà. Eh ben voilà, donc ça restera toujours ma musique préférée. Elle met de bonne humeur en fait. On n'est pas bien, ben on est bien après l'écouter. Et si on est bien, eh ben on est encore mieux.
Ouais, elle était importante voilà. Pour moi celle-là. Dans Z.1, il y a positif. Et donc il parle de choses positives. Mais dans un point de vue, en disant une voix de grand frère, en mode t'inquiète pas, les problèmes sont durs, mais parfois on est là et ça va le faire. Et là, je voulais faire un côté beaucoup plus enfantin, où on est en mode hey, c'est la merde, mais je suis là. Puis quand moi ce sera la merde, et bah, on s'échangera et tout ira bien, et on sera bien, on se sentira bien. Puis si tu sens pas bien aujourd'hui, c'est pas grave, ça veut dire que demain ça ira.
Et oui, c'est et important. En attendant, on sera toujours là pour t'aider.
C'est ça.
Tout comme on imagine bien que tu seras là pour nous aider.
C'est ça. Ouais. C'est trop important.
Franchement, c'est beau, hein, la fin. Moi, j'aime beaucoup.
Et je voulais, voilà, comme tu dis, c'était important, mais faire un son, ben, pas un son que t'écoutes quand t'es triste. Genre de son, t'es de bonne humeur, tu te dis, tiens, j'ai envie d'être un petit peu plus dans la voiture. Et c'est vrai qu'il a bien plu aux gens, ce son-là. Ce son-là a bien plu aux gens, ouais.
Voilà. Donc, je vous rappelle que ces morceaux sont extraits de l'album Z.2. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut l'écouter, Z.2?
Alors, Z.2, il est disponible sur Spotify, Deezer, tout ça. Il est disponible aussi en version CD.
CD.
Il y a les liens un petit peu partout, sur les Instagram, les tout ça. Et puis sinon, bien sûr, il est disponible sur YouTube, gratuitement, évidemment. Voilà, il est disponible un petit peu partout. Et on est très ouvert aussi aux avis des gens et tout ça. C'est vraiment super important pour nous, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer la chose, petit à petit. Et peut-être un jour sortir l'album parfait comme les plus grandes légendes. Moi, c'est mon objectif. J'ai écouté l'album Stromae, par exemple. Ça y est, moi, j'ai envie de faire 10 albums pour arriver à son niveau. Je suis prêt à bosser pendant 30 ans.
Alors, je pourrais te décevoir en disant que souvent, on voit jamais son album bien. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il est toujours mieux que celui d'avant.
Exactement.
Et donc ça, c'est beau.
Si les gens sont toujours là aussi pour... les avis sont parfois divergents et ça fait du bien. Ça permet d'avancer.
Ah oui. Quelles ont été tes inspirations pour faire ces musiques ?
Alors, on a beaucoup de, comme je disais, d'Orelsan, on a beaucoup de Vald, on a beaucoup de Lompal, on a beaucoup de Damso. Damso qui a été vraiment une découverte pour moi, alors que tout le monde le connaît depuis un milliard d'années. J'ai bien aimé aussi les inspirations qu'ont pu apporter Laylo, ce genre d'artiste-là. J'aime beaucoup la nouvelle génération, j'écoute très peu de rap US.
Okay.
Principalement parce que quand je comprends pas les paroles, ça me saoule. Mais ouais, toutes les inspirations, c'est ça, et ça peut paraître un peu pompeux, mais les gens du label. Dro, entre autres, c'est, je pense, ma plus grande inspiration. Je trouve que c'est d'une qualité bien meilleure que ce que vous avez écouté ici. Donc voilà, si les gens veulent écouter Droe, c'est vraiment génial. Et c'est. Les gens du label sont vachement bons pour ça. Le fait de grandir avec des gens qui sont en train de former leur personnage, ça les rend, je trouve, d'une intensité folle. De suivre quelqu'un avant qu'il devienne très connu, ça le rend peut-être sorte de petit coffre précieux, on a envie de garder la clé.
Un petit bijou.
C'est ça,
ouais.
C'est ça.
Dro qui d'ailleurs participe à l'un de tes titres dans ton album.
Illusion. Il est toujours en featuring sur mes albums. J'ai toujours été en featuring sur les siens. On compte faire un groupe un jour tous les deux. Ouais, on fait bien les choses. Maxence aussi, on a fait pas mal de featuring sur ses albums ou tout ça. On essaye de plus en plus d'aller dans un environnement 100% maison.
Oui.
Labellisé bio, quoi. Où on prend pas de prod sur internet, le mixage c'est nous, l'instru c'est nous, les patex c'est nous, et proposer, voilà, on se dit si on veut proposer quelque chose de différent, faut qu'on maîtrise chaque point de la production musicale, jusqu'à le passage sur Spotify, etc.
Ok. Ton album est-il disponible aussi en téléchargement numérique?
Non, il n'est pas disponible. On m'a demandé plusieurs fois, ça m'intrigue, on me l'a proposé plusieurs fois, je l'ai jamais fait. J'ai toujours accepté que les gens qui me le demandent, je leur envoie gratuitement. Ça, ça me dérange pas. Mais ça me dérange qu'on paye pour quelque chose de pas matériel. Alors, on va me dire, il y a du travail, bien évidemment. Mais moi, en tant qu'artiste, je préfère que de me dire, écoute, achète mon CD. Pour 10 euros, t'as quelque chose de physique que tu vas garder. Et en même temps, je t'envoie une clé, si tu veux, pour que t'ailles le télécharger. Mais juste payer le téléchargement, moi, j'aime pas l'idée.
Ok.
J'aime bien le côté... je sais pas, le côté physique... J'aime bien ce côté-là. Mais voilà. Beaucoup me l'ont demandé. Mm-hmm. Donc il y a une attente, je suppose.
C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le vinyle de nos jours marche bien. Parce que maintenant qu'on écoute, on peut tout écouter en streaming, le fait de poser l'objet physique, autant aller jusqu'au bout et avoir la grande pochette de 30 cm de large qui permet vraiment de, bah, de vraiment avoir un objet qui est quasiment de collection pour, dans notre cœur, en tout cas, ça c'est sûr.
Puis moi, quand on fait les CD, on passe par une petite boîte italienne, donc on fait ça vraiment, entre guillemets, de nos mains. Donc c'est un objet qui demande autant de préparation que je sais pas, un t-shirt, enfin peut-être même plus. Donc c'est ça aussi qui est cool.
Okay.
Le fait de se dire que le gars, là, un peu comme des livres dans une bibliothèque, il va peut-être se mélanger le CD parmi tous les autres, mais au moins il est là, quoi.
Ok. Eh bien merci beaucoup en tout cas.
Merci
à toi. Ce fut un plaisir de t'accueillir ici à Radio SV. Je vous rappelle que Radio SV c'est le site radio120.fr, ses réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook. Et du coup, j'ai la tristesse de vous dire que cette émission est terminée. Donc il va falloir bien passer au remerciement parce que beaucoup de gens sont passés par là.
Metteur rythmique. Une émission spéciale sur Radio SV.
Donc, pour les remerciements, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'aimerais d'abord remercier la technique, bien qu'elle a pu avoir accès à pas mal de problèmes. Elle a réussi à tout corriger, parce que ce sont des personnes qui travaillent très bien. Je tiens donc à remercier Pépé pour le streaming. Merci Pépé.
Merci à toi, c'était un plaisir.
Voilà, ça fait vraiment plaisir. C'était pour ma part ma première émission en stream, qui a eu quelques galères, mais jusque-là, ça s'est bien passé, donc je suis content. Merci évidemment à Sarah, à la technique, qui a géré tout le son de cette émission et qui a rattrapé toutes les erreurs qu'on aurait pu faire. Et franchement, moi, je ne suis pas déçu. J'espère bien que vous aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Enfin, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous m'ont accompagné sur le plateau. Certaines ne sont plus là. Je pense à Martin, qui nous a quittés, mais qui a fait un jeu excellent. Évidemment aussi évidemment Tristan ainsi que toi Servane pour ta chronique.
Et ben merci à toi pour cette idée d'émission.
Et oui, ça fait plaisir. Et évidemment merci à toi Lucas qui vient mettre le sel, tout ce qui fait plaisir en plus d'apporter la part de vrai de vécu dans cette émission finalement.
Merci beaucoup en tout cas, ça m'a fait très très plaisir. Et avec plaisir, franchement, de participer à ce genre d'émission.
Et voilà. Donc, les amis, il est 22h10 et maintenant, c'est terminé. Au revoir et bonne soirée.
Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole.